S'il a été indifférent à Barthe d'être moderne à un moment de sa vie, il n'a pas été indifférent à Barthe d'être méthodique. Il faut le redire. Avant la mise en soupçon du mot de méthode, au carrefour des années 60 et 70, Barthes a eu des velléités méthodistes au moment de la sémiologie triomphante, alors qu'il se cherchait lui-même une place stratégique, une place de savoir dans un champ structuraliste qui était alors à la fête. Il a cherché à poser un système pour vraiment se négocier une place de savoir à côté de gens comme Lévi-Strauss ou comme Lacan. Comme il le confie a posteriori dans un entretien, avec un zeste de naïveté rétrospective, plus que de reniement, il dit avoir traversé, vous connaissez tous cette citation, traversé un rêve euphorique de scientificité dont le système de la mode et les éléments de sémiologie sont les résidus. Ces deux livres, en effet, par leur construction logique et par leur souci de poser les jalons d'une méthode sémiologique capable d'embrasser le plus grand nombre d'objets possibles, ces deux livres sont indéniablement des livres programmatiques, des livres qui programment, qui esquissent un savoir avec des procédures et dont le caractère fondateur, fortement circonstanciel à l'époque, a justement assuré la péremption. C'est bien parce que c'était des livres de programme dans l'air du temps qu'ils ont connu aussi l'oubli le plus rapide de la part de son auteur, mais évidemment de la part du lectorat que nous sommes aujourd'hui, car ce sont peut-être les livres les plus méthodologiques de Barthes qui sont les moins lus aujourd'hui. Donc, en tout cas, ces deux livres-là. De même, et de façon plus précoce encore, Barthes a récupéré, on pourrait dire, récupéré ses mythologies sous la caution de Saussure et de Jenslev, bien après l'écriture circonstanciée des mythologies. Dans un geste théorique ultérieur, dans ce texte, Le mythe aujourd'hui, qui cherche justement à gommer précisément l'actualité de l'écriture et le caractère de circonstance sous une, dit Barthes, ouverture méthodologique, a posteriori, comme il le confie en 71. SZ, en 70, en alliant le vœu de pulvérisation du sens à la rage codificatrice, est un livre étrange autant qu'ambigu dans ses rapports avec la méthode. Car tout en déniant le caractère méthodologique et explicatif de son texte, dans une forte périphrase, antiphrase inaugurale, ceci n'est pas une explication de texte, c'est quand même hyperbolique, on ne lit une explication outrancière d'un texte, Barthes n'en propose pas moins, évidemment, en plus de toute la logique mathématique qui régit, même visuellement et formellement, le détail de chaque lexie. En guise d'annexe, Barthes propose dans la table raisonnée, si vous regardez bien, qui lui tient précisément lieu de plan, inscrit clairement des chapitres méthodologiques sous l'intitulé méthode 1 puis méthode 2. Comme quoi, il y a le geste et le désir à travers cette écriture de SZ d'en faire un objet transmissible, un objet universalisable ou applicable, en tout cas sur d'autres objets textuels, ce qu'il fera d'ailleurs, ou ce qu'il tentera de faire juste après l'écriture de SZ au début des années 70 en analysant à travers la même méthode, à travers les mêmes filtres, deux extraits de la Bible, la Genèse et un extrait de l'Acte des Apôtres ou encore un extrait de la Pharsale de Lucain et bien sûr un conte d'Edgar Allan Poe. Éric Marty a bien cerné l'ambiguïté de ce livre, en faisant justement de cette dénégation inaugurale dont je parlais, ceci n'est pas une explication de texte, un concept opérant, depuis même cette dénégation, un concept opérant pour comprendre justement la négativité qui parasite l'attention positive de la méthode, en montrant notamment comment Barthes, tout en s'inscrivant comme seul sujet du livre, c'est ma lecture en empathie complète avec le texte, comment ce jeu, cette assomption du lecteur, s'efface progressivement et sans cesse sous couvert d'une exploration totalisante d'un texte. De ce nouveau positionnement devant la méthode, positionnement ambigu, à la fois affiché, mais en même temps contesté, Barthes en livre les raisons dans un article tout en réflexivité sur les enjeux propres à l'exposition du discours intellectuel. Le danger de la méthode, d'une fixation à la méthode, vient de ceci. Le travail de recherche doit répondre à deux demandes. La première est une demande de responsabilité. Il faut que le travail accroisse la lucidité, parvienne à démasquer les implications d'une procédure, les alibis d'un langage, constitue en somme une critique. Rappelons encore une fois que critiquer veut dire mettre en crise. La méthode est ici inévitable, irremplaçable, non pour ses résultats, mais précisément, ou au contraire, parce qu'elle accomplit le plus haut degré de conscience d'un langage qui ne s'oublie pas lui-même. Mais la seconde demande est d'un tout autre ordre. Elle est celle de l'écriture, espace de dispersion du désir, où congé est donné à la loi. Il faut donc, à un certain moment, se retourner contre la méthode, ou du moins la traiter sans privilège fondateur, comme une des voies du pluriel, comme une vue, en somme, un spectacle, enchâssé dans le texte qui est à tout prendre le seul résultat vrai de toute recherche. La méthode ici, celle qui est revendiquée, l'est au nom de la responsabilité du critique. Responsabilité ou franchise, on en parlait hier, sont des mots alors importants pour Barthes dans sa considération du geste de la discursivité scientifique. Responsabilité du critique qui doit assumer avec lucidité le système méthodologique depuis lequel il parle, sans être pour autant dupe de ses alibis rhétoriques. La méthode vaut ici très clairement comme un synonyme de système. C'est un autre mot qu'il emploie à l'époque, notamment le système idéologique du critique, qu'il oppose à la critique d'interprétation, le critique idéologique, et celui qui est conscient de l'idéologie qu'il revendique et qu'il applique. Et à l'égard duquel Barthes demande une franchise critique, notamment dans la préface du Sur Racine, et dans Littérature et Signification également. Mais bien sûr, Barthes inscrit à l'horizon de cette méthode affichée un flottement dans le traitement de la méthode, une désorientation toute stratégique qui doit en déplacer la centralité et les déterminations par trop légales, le mot de loi est ici présent, les déterminations légales ou encore castratrices, il dit ailleurs, je crois que c'est dans pour la libération d'une pensée pluraliste, où il dit que la méthode a des visées castratrices, mais qu'il faut quand même les mettre en avant, les afficher. Alors, l'enjeu n'est pas vraiment de ne plus avoir de vue méthodologique, comme Barthes a pu le confier à certains moments, je n'ai pas de vue méthodologique, je n'ai pas de méthode quand j'écris, comme il l'asserte, mais bien de jouer contre la méthode, c'est là le mot central, à la fois en opposition, contre, et en proximité, hein, serré, affronté à la méthode, dans des dispositifs formels conscients de la fiction propre à toute méthode, et précisément aptes, plus on en est conscient, à les déjouer par des choix d'écriture donc qui vont être méthodiquement antiméthodiques. Ce méthodiquement antiméthodique, je reprends Adorno. Je ne l'ai pas précisé, évidemment, qui met l'essai comme forme est dans la dynamique centrale de l'essai. Où il dit que c'est la mobilité de la pensée se doit, pour être franche, justement, de ne pas être méthodologique, de ne pas se soucier d'un programme préalable, mais de se laisser errer et d'être justement en contestation permanente du chemin tracé par la méthode. C'est donc selon cet équilibre subtil que Barthes va désigner du terme savant d'apophatisme qu'il va se négocier un retour à la méthode, à son entrée au Collège de France. Alors je rappelle, évidemment, pour pas faire le pédant quand même, l'apophatisme, c'est pas un mot qui est non plus extrêmement présent chez Barthes, mais crucial dans son texte de la leçon inaugurale, où il se dit qu'il revient à une sémiologie littéraire à condition qu'elle soit sous l'égide d'une méthodologie apophatique. Alors, l'apophatisme, c'est une approche philosophique fondée précisément sur la négation, beaucoup utilisée dans la théologie négative, qui consiste à définir Dieu par tout ce qu'il n'est pas, hein, à le désigner donc activement par les formes de son vide, ce que se propose de faire Barthes avec donc la méthode ici. En effet, alors qu'il endosse une position de maîtrise à l'entrée au Collège de France, hein, une position de maîtrise qui l'oblige à mener un raisonnement devant un auditoire savant, un auditoire d'élèves, selon donc des procédures classiques d'exposition du savoir, il lui devient nécessaire de lui-même revenir sur son geste méthodologique au moment où son discours est adressé. Et donc, c'est la deuxième citation qui aborde de front cet apophatisme de la méthode, bien que ça vient après la mention de ce mot. Si donc la méthode intervient à titre de démarche systématique, ce ne peut être une méthode heuristique qui viserait à produire des déchiffrements, à poser des résultats. La méthode ne peut porter ici que sur le langage lui-même en tant qu'il lutte pour déjouer tout discours qu'il prend. Ce pourquoi il est juste de dire que cette méthode est, elle aussi, une fiction. Car ce qui peut être oppressif dans un enseignement, ce n'est pas finalement le savoir ou la culture qu'il véhicule, ce sont les formes discursives à travers lesquelles on les propose. Puisque cet enseignement a pour objet, comme j'ai essayé de le suggérer, le discours pris dans la fatalité de son pouvoir, la méthode ne peut réellement porter que sur les moyens propres à déjouer, à déprendre, ou tout au moins à alléger ce pouvoir. Et je me persuade de plus en plus, soit en écrivant, soit en enseignant, que l'opération fondamentale de cette méthode de déprise, c'est, si l'on écrit, la fragmentation, et si l'on expose, la digression, ou pour le dire d'un mot précieusement ambigu, l'excursion. Encore une fois, Barthes ne cède pas à la naïveté qui serait de détruire ou de dire « je supprime toute méthode ». Barthes, quand il est subversif, l'est toujours subtilement. Il n'est jamais dans une opposition immédiate, franche, violente. Il opte au contraire, justement, pour ce méthodisme apophatique, dont la principale fonction va être de délivrer le savoir selon une méthode activement négative. Active, si l'on veut, par la négativité qui est celle de la déprise, comme il le dit, de la fragmentation, de la digression. Toute forme méthodologique qui, comme on va le voir maintenant, inaugure les seuils ou des cours à partir de l'empire des signes. Ce que l'œuvre de Barthes nous dit de la méthode orthodoxe du discours intellectuel est donc toujours pris dans un double mouvement d'assomption et de récusation. Elle ne la renverse pas, elle ne la dissimule pas, elle ne censure même pas l'attraction qu'elle peut en éprouver. Elle la désigne en affichant les formes de son vide, comme on le disait. La subversion se fait alors au plus près de la forme contestée. Elle joue contre elle dans un mouvement simultané d'empathie et de mise à distance qui à la fois érige, mais en même temps ruine. C'est vraiment sur cette dialectique, en fait, qui m'intéresse ici. Alors, on va passer à des lectures plus détaillées, à une exemplification. Cette négation du geste méthodique, donc par affirmation paradoxale, devient, je le disais, l'un des principaux enjeux des essais barthésiens au cours des années 1970. Barthes, à l'orée de ses ouvrages, pose alors, assez systématiquement, des seuils méthodologiques qui engagent une forme de déprise de cette orthodoxie dont on parlait. Dans la marge, sur le seuil, qu'il y a pour l'habitude, paradoxalement, de se donner pour fonder la légitimité du savoir. C'est ce lieu stratégique où j'affirme la légitimité du savoir va être en fait un lieu stratégique de délégitimation active du savoir. Ces méthodes, alors, deviennent pour la plupart des contre-ordres opposés à la fixation du savoir. Elles ne peuvent porter que sur le langage lui-même, en tant qu'il lutte, justement, pour déjouer tout discours qu'il prend, comme il le disait. De cette contradiction systématique d'un système discursif réglé et tenu de répondre à l'ordre de son dire, le prologue bien connu de l'Empire des signes en détaille les enjeux. Je lis cet extrait qui s'intitule, ce n'est pas anodin, là-bas. Si je veux imaginer un peuple fictif, je peux lui donner un nom inventé, le traiter déclarativement comme un objet romanesque, fonder une nouvelle garabagne, de façon à ne compromettre aucun pays réel dans ma fantaisie. Mais alors, c'est cette fantaisie même que je compromets dans les signes de la littérature. Je puis aussi, sans prétendre en rien représenter ou analyser la moindre réalité, ce sont les gestes majeurs du discours occidental, prélever quelque part dans le monde, là-bas, un certain nombre de traits, mots graphiques et linguistiques, et de ces traits former délibérément un système. C'est ce système que j'appellerais le Japon. Alors, ce qui m'intéresse dans ce court texte, dont évidemment il y a énormément à dire, et beaucoup, sinon tout, a été dit. Ce qui m'intéresse, au-delà de la forme essayistique que Barthes vise ici, qui est déjà une tierce forme, qui annonce ce qu'il voudra faire dans la préparation du roman, une forme qui ne soit pas dupe ni des signes de la littérature, le roman, ni des signes de la véridicité, le traité, c'est, si l'on reste au niveau de l'analyse du discours méthodologique, le double mouvement ici de déprise et de reprise qui l'anime. Déprise d'abord de la méthode et de toutes les formes de validation, de fixation du discours savant. Déprise, moi je la vois dans la revendication massive d'un imaginaire. Les mots sont fictifs, romanesques, imaginés, fantaisie. Affirmation forte de la subjectivité, je veux, je puis. Dénégation de la rigueur de l'examen, que ce soit dans l'ordre du qualitatif, toujours modeste, sans prétendre, rien représenter, prélever. Ou dans l'ordre du quantitatif, toujours lâche, imprécis, qui vise le moindre, la petite qualité, quelque part, un certain nombre, moindre réalité. Comme une distanciation totale, hein, du surmoi scientifique ici. Déprise, mais en même temps reprise d'une forme assumée de déclarativité quand même, laquelle précisément veut élever au rang de système, c'est le dernier mot, cette même déprise des procédures canoniques du savoir, avec des adverbes, déclarativement, délibérément, ou avec un futur catégorique, j'appellerai. Ce système ou cette méthode qui joue stratégiquement contre le système de la raison occidentale, ou du moins dans ses formes usuelles de validation logique, incarne bien ce que j'ai dit tout à l'heure de l'actif du négatif que cherche Barthes dans l'ordre méthodologique. Il s'agit ici de tenir la vacance des systèmes, comme il le dit dans le lexique de l'auteur. Il veut tenir la vacance des systèmes. Dans une nouvelle forme systématique, qu'il place ici d'ailleurs symboliquement dans l'espace du là-bas, dans l'espace de la vacance, de l'ailleurs, qui est autant géographique qu'épistémologique, dans mon sens. Alors, je vais en arriver à ma dernière lecture, qui est évidemment le seuil le plus massif, le plus développé, le seuil des discours, fragments d'un discours amoureux, pardon. La section qui ouvre les fragments d'un discours amoureux, intitulée « Comment est fait ce livre ?», est peut-être l'un des seuils méthodologiques les plus importants de ces années-là. Il a l'avantage d'être le plus développé et il a également l'avantage de recouper les principaux arguments que Barthes défend au nom d'un contre-méthodisme, lesquels vont innerver les trois cours au Collège de France, hein, ces trois introductions méthodologiques, quoique dans la préparation du roman, le seuil est déplacé au centre, au moment où il parle de la simulation, la méthode comme simulation. Donc, tout ce qui est en germe dans ce seuil se retrouve évidemment, vous le savez, dans les cours. Le mot de méthode apparaît dès le premier paragraphe de ce court texte, ce qui nous permet de dire, à la suite de Bruno Clément, que c'est bien un récit de méthode que fait ici Barthes avant son essai, qui explicite en trois points, le premier point sera figure au pluriel, ordre, référence, qui explicite donc l'objet qui a été visé et la conduite, donc les procédures, scientifiques, logiques, méthodologiques, qui ont guidé cette visée. Tout est parti de ce principe, qu'il ne fallait pas réduire l'amoureux à un simple sujet symptomal, mais plutôt faire entendre ce qu'il y a dans sa voix d'inactuel, c'est-à-dire d'intraitable. De là le choix d'une méthode dramatique, qui renonce aux exemples et repose sur la seule action d'un langage premier. Pas de métalangage. On a donc substitué à la description du discours amoureux sa simulation et l'on a rendu à ce discours sa personne fondamentale qui est le jeu de façon à mettre en scène une énonciation, non une analyse. Alors chaque mot a ici son importance bien évidemment, mais le plus significatif est sans doute l'adjectif bien connu de dramatique qui vient qualifier cette méthode. On le sait, les champs sémantiques du drame et de son quasi-synonyme théâtre insistent puissamment à l'époque dans l'écriture barthésienne dans le milieu des années 70. Ils ont pour vertu de proposer à Barthes par le truchement de Nietzsche, ou plutôt d'un Nietzsche lu par Deleuze, une rhétorique du savoir qui soit juste par la mise à distance qu'elle se négocie à l'égard de tout métalangage. De là, la multiplication qu'on pourrait s'amuser à pointer, la multiplication des associations topiques entre les catégories du drame et du savoir. Je prends presque au hasard la science dramatisée dans Roland Barthes par Roland Barthes, qui est un fragment. La dramatisation de la théorie. Barthes dit, il faut dramatiser la théorie. Dans Barthes en bouffée de langage, dans un entretien. Les systèmes théâtralisés. Préface du Sade Fourier Loyola. Et donc ici, la méthode dramatique. Association systématique des deux ordres, des deux mots, des deux signifiants. Donc dans une proximité, je le disais, évidente à Gilles Deleuze, à la fois pour ce que Deleuze dit de la méthode et de la culture dans son Nietzsche, et que Barthes reprend en ouverture du Comment vivre ensemble, en opposant la méthode et la culture, mais surtout en écho à un article de Deleuze intitulé « La méthode de la dramatisation », qui est quasiment synonyme ici de ce que dit Barthes et de la formulation qu'il en propose. Méthode dramatique, méthode de dramatisation, on est vraiment dans un espace intellectuel très proche, avec des jeux de recouvrement évidents, que Barthes assimile sans revendiquer ouvertement, parce que il est lui-même dans une appropriation plus que dans une lecture fidèle de Deleuze. À cette condition donc, par l'instillation d'une perturbation d'ordre énonciatif, une certaine forme discursive du savoir devient possible. Ici, la méthode dramatique rejoint ces mêmes impératifs. Elle permet donc, par la mise en scène active d'une énonciation à la première personne, de renverser point par point les catégories traditionnelles de l'imaginaire de la scientificité et de ces canons méthodologiques que Barthes reprend un par un. Dans la citation, on voit les exemples, le métalangage, la description, l'analyse. Donc là, typiquement, on est dans un récit de la méthode activement antiméthodique, donc, je le répète, et dont les trois points d'application que se donne Barthes dans la suite de cette préface, figure, ordre, référence, se propose justement de reconduire cette stratégie active de négation au cœur même de trois ordres institués de la discursivité scientifique, à savoir, 1, la démonstration rhétorique, c'est la section figure, 2, l'ordonnancement dialectique et chronologique, c'est la section ordre, 3, l'examen des preuves et les procédures d'échantillonnage bien connues des procédures méthodologiques du scientifique, c'est la section référence. Donc je vais m'intéresser à ces trois sections rapidement avant d'en finir avec la communication. Quoique, maintenant que je l'ai dit, je vais m'arrêter là. Pardon. Donc le choix d'une méthodologie qui opère par figure, au pluriel, s'inscrit d'abord, à mon sens, intentionnellement, dans un espace sémantique voisin de la rhétorique ici. On le sait, on l'a rappelé tout à l'heure, Francesca est la caution ici intellectuelle de la rhétorique s'il y a des problèmes. On le sait, le mot est très labile chez Barthes et peut tour à tour recouvrir des connotations positives quand elle signale la dimension essentiellement indirecte du langage et qu'elle investit comme telle, notamment dans la préface des essais critiques dont on a rappelé tout à l'heure la citation la plus célèbre, la dimension amoureuse de l'écriture, c'est la rhétorique. Ou des acceptions négatives également, dès lors qu'elle réfère de façon plus traditionnelle à des passages obligés de la langue et que plane peut-être sur elle l'ombre d'une codification hiérarchisée et ancienne du discours. Ici, Barthes, peut-être dans l'orbe de son antiméthodisme, j'ai l'impression que Barthes emploie, en tout cas dans cette introduction, dans cette section, le mot de rhétorique, il l'emploie dans ce second sens, il le qualifie d'ailleurs d'ancienne et de classique, pour bien la mettre à distance. Dans ce second sens, la rhétorique devient suspecte de systématisme et réfère à une énonciation codifiée et dissertative du savoir, la même qu'il rejette au début du Sade Fourier Loyola de manière assez discrète en disant « Si la logosis s'arrêtait à la mise en place d'un rituel, c'est-à-dire en somme d'une rhétorique, le fondateur de langue ne serait rien de plus que l'auteur d'un système, ce qu'on appelle couramment un philosophe ou un savant ou un penseur. » Donc là, on a une mise à distance quand même de l'aspect rhétorique du savoir, peut-être trop sec, trop méthodologique, trop scientifique. Alors le choix d'apparenter le modèle méthodologique des fragments d'un discours amoureux quand même aux catégories traditionnelles de la rhétorique, à savoir les figures, n'est alors pas anodin et relève d'une intention toute stratégique. Il s'agit peut-être pour Barthes, d'emprunter ici la voie de la contre-rhétorique dans le lexique précis de la rhétorique, selon le même principe de reversion du négatif en actif. Alors Barthes est assez subtil dans sa manière de faire. Pour le faire, il use à outrance de l'étymologie. Il va prendre chacun des mots issus du lexique que chacun connaît de la rhétorique dans son sens premier, figural. Figural crée un effet de sens avec rhétorique, donc c'est peut-être pas le bon mot, mais dans l'image et dans les mots sous les mots que chaque mot rhétorique révèle. Selon, il va pour le maintenir encore au titre de sa méthode paradoxale. Ainsi, je fais très vite, hein, le discours. Hein, il parle de discours. Le discours, ce n'est pas ce qui est lié, au contraire de ce qu'on pourrait croire, c'est au contraire le discursus, nous dit Barthes, avec un jeu facile, les déplacements aléatoires, les bouffées de langage. Hein, on est dans l'ordre de la mobilité, non de la fixation, non de la voie droite, comme le dit étymologiquement aussi le mot de méthode. Quand il emploie le mot figure, parce que vous savez bien que chaque fragment est illustré par une figure, Barthes dit la figure ne doit pas s'entendre au sens rhétorique. La figure est avant tout un schéma, dit Barthes, un mouvement chorégraphique, une dynamique qui n'est pas fixiste, du coup. Le cercle des figures dessine bien une topique, rappelle Barthes, mais conformément à l'étymologie topos, rappelle aussi Barthes, chaque figure est davantage plus un lieu de projection, encore un lieu dynamique, que le lecteur va saisir, va s'approprier, va remplir, comme une case, plus qu'un lieu clos, est déjà saturé de sens, plus qu'un topos fini et non plus actualisable. S'il y a bien un argument, enfin, dit Barthes, qui sous-tend chaque figure, vous savez, le petit texte qui vient sous le mot de figure, un argument, s'il y a bien un argument, celui-ci n'est en rien un discours sur l'amour, ce n'est pas un argument argumentaire, si l'on veut, ce n'est pas une thèse à faire valoir. C'est, selon encore son sens ancien, que Barthes rappelle d'ailleurs dans son texte sur la rhétorique, selon son sens ancien, un argumentum, un petit drame, un petit narratème, si on veut, un petit récit, qui est déjà donc d'ordre figural, narratif, et presque romanesque. Une histoire inventée, un instrument de distanciation, dit Barthes, qui articule donc la figure dans un fragment narratif, sans vouloir prédiquer et clore cette même figure. Donc voilà pour la première section, figure. Et je termine rapidement avec les deux autres qui sont beaucoup plus simples. Si la méthode barthésienne fait ensuite le choix des figures, donc dans une proximité destructive avec le lexique traditionnel de la rhétorique, l'ordonnancement de cette même méthode est encore plus explicitement miné, bien évidemment. Je lis rapidement la citation qui n'a pas... je la lis. Aucune logique ne lie les figures, ne détermine leur contiguïté. Les figures sont hors syntagme, hors récit. Ce sont des érinies. Elles s'agitent, se heurtent, s'apaisent, reviennent, s'éloignent, sans plus d'ordre qu'un vol de moustiques. Le discoursus amoureux n'est pas dialectique. Il tourne comme un calendrier perpétuel, une encyclopédie de la culture affective. Dans l'amoureux, quelque chose de Bouvard et Bécuchet. Donc on voit bien qu'ici, à la raison dialectique, soumise à une transcendance du sens, une philosophie sur l'amour, ajoute Barthes ailleurs, et véhicule millénaire du système, Barthes oppose un ordre qui se veut absolument insignifiant, un ordre donc pensé comme un contre-ordre, une contre-marche, et dont la tentation de lecture verticale, aimantée par une théologie du sens, est déjouée par deux arbitraires contrôlés ici, celui de la nomination. Chaque figure possède un nom, un ordre restreint venu du dictionnaire, et celui de l'alphabet, bien sûr. Les figures s'enchaînent dans l'ordre alphabétique et tentent de se soustraire aux réunions logiques, aux effets de sens, qu'aurait encore pu susciter la distribution selon le pur hasard. Bon, bien sûr, c'est faussé, il y a des regroupements évidents de sens, que ce soit dans les cours sur comment vivre ensemble, dans le nœud, dans le Roland Barthes par Roland Barthes. Barthes, stratégiquement, est lui-même attentif à ses effets de sens. Je prends par exemple, le comment vivre ensemble. Il ouvre sur le mot akédia en grec. Il termine sur xénitheia. Il est conscient du réseau grec qui s'ouvre, qui se ferme. Bon, bref, il n'y a pas non plus un pur hasard, bien évidemment. Mais ce pur hasard, cette déconstruction méthodologique, est comme mise en scène. Et il faut l'assumer dans la parole antiméthodologique qu'est celle de Barthes. Méthode antiméthodique, donc, dans le sens où le chemin suivi, ne pas oublier que métaodos, c'est en suivant le chemin. Barthes emploie toujours dans ce sens de la simultanéité, et jamais dans le sens de l'ultériorité. Souvent, quand même, la méthode, c'est le chemin après. C'est après avoir parcouru le lieu, je fais mon discours préalable. Barthes, lui, pense en termes de simultanéité, méthode suivie, sur le chemin suivi, le chemin droit. Le livre, donc, est astreint par statut au cheminement, ça, il en est conscient, mais les figures, il le précise, les figures ne peuvent se ranger, s'ordonner, cheminer, concourir à une fin. Donc, le mot chemin est central pour bien rappeler l'étymologie du mot méthode. Et encore une fois, il prend explicitement le mot méthode, en défaut donc, et au rebours de son sémantisme, comme je l'ai montré avant, avec les figures de la rhétorique. Enfin, l'examen scrupuleux des preuves et des exemples, pierre d'angle d'une rhétorique du savoir fondée sur l'attestation référentielle, est lui aussi évidemment subtilement parasité par une contagion croissante qui va de l'amoureux à l'écrivain et qui superpose donc la figure de l'amateur, celui qui aime, à la figure d'auteur, celui qui fait autorité, comme un échange, comme une translation de rôle que Barthes met évidemment très clairement en avant à la fin. Donc Barthes récuse enfin une méthode soumise au bon usage du savoir, car si l'auteur, je cite Barthes, prête ici au sujet amoureux sa culture, en échange, le sujet amoureux lui passe l'innocence de son imaginaire, indifférent aux bons usages du savoir. Là encore, dans la langue même, innocence, indifférence, tout est joué par la forme privative, par la règle buissonnière qui entend désordonner, justement, une méthode à tous égards hétérodoxe. Alors je vais finir ici. Je n'ai pas de conclusion, mais simplement m'arrêter là comme une photographie, une photographie de la pensée de Barthes sur la méthode à la fin de ces années 70, dont on ne sait pas ce qu'elle aurait donné, si on le sait déjà à travers des essais qui sont beaucoup plus novateurs sur le plan de la forme, comme Fragment d'un discours amoureux, sans préjuger de la forme à venir qu'aurait pu prendre de nouvelles méthodes barthésiennes. Donc, je dirais tout simplement que la méthode dramatique longuement esquissée au seuil des fragments d'un discours amoureux, je répète, dessine dans le registre de l'essai tout le projet méthodologique qui sera reconduit dans l'ordre magistral au Collège de France. Même distribution par figure pour asseoir le continu du discursus, ce seront des traits, des sentiments, des figures que choisira Barthes. Même ordonnancement alphabétique pour fausser la logique du cheminement, du chemin droit, même légitimation de référence hétéroclite pour souligner l'imaginaire du savoir à l'œuvre chez le savant, même défense de la simulation, surtout, qui est centrale et qui constitue le fondement de cette méthodologie dramatique, notamment au cœur de la préparation du roman, comme je disais tout à l'heure, où l'énonciation du savoir se met dans la position de ceux sur qui ou ceux sur quoi elle tient discours. C'est ça qui est intéressant. Position de l'amoureux qui parle de l'amour ou position de l'écrivain qui s'apprête à écrire. Voilà, merci.